Alors, parfois on confond un peu les constellations avec un jeu de rôle, un psychodrame. C'est pas toujours bien clair ce que c'est que les constellations. Alors, dans les années 20, il y a un médecin roumain qui s'appelle Moreno, qui a commencé à s'intéresser un petit peu aux groupes sociaux et aux marginaux, un peu ceux qui étaient dans les prisons, dans les écoles, qui étaient un peu à part, et qui a proposé, car il était aussi intéressé par le théâtre, de finalement, pour trouver d'autres solutions, de mettre en scène des problèmes sociaux que les personnes avaient. Même parfois, il avait lu des articles sur, on va dire, des événements assez tragiques entre des couples, etc., ou toutes sortes d'événements, on va dire, du quotidien, de la réalité. Et il s'est dit que pourquoi pas faire jouer à ces personnes leurs problématiques sur une scène, de sorte à trouver d'autres solutions. Donc les personnes venaient sur une scène, elles jouaient leur rôle, oui, en allant jusqu'au bout de ces rôles, avec un public qui regardait aussi cela. Et l'idée, c'était finalement de faire un jeu de rôle pour arriver à trouver une meilleure solution. Donc ça, c'est le psychodrame, le jeu de rôle qui a été initié donc par ce médecin dans les années 20, qui s'appelle Moreno, et qui donc aussi, là encore aujourd'hui, une façon de travailler. Il y a plein, on va dire aujourd'hui aussi, de choses qui sont un peu héritées de différentes formes de thérapie, des systèmes, hein, c'est-à-dire familiales ou des systèmes sociaux, des groupes, des institutions, etc., et qui permettent donc là encore de trouver, de théâtraliser, de trouver d'autres solutions possibles au problème qui est. Ça veut dire que chacun peut, par exemple, je sais qu'il y a des groupes de jeunes aujourd'hui, on peut travailler comme ça, il y a des conflits, ils mettent en scène leurs conflits, hein, c'est beaucoup en lien aussi avec le théâtre, et chacun peut proposer une nouvelle solution, intervenir pour proposer une nouvelle solution. Ce que nous faisons dans les constellations n'est pas cela, même si ça a tout à fait son intérêt par ailleurs. Mais quand même, il y a bien sûr, là aussi, dans le travail sur les thérapies familiales, une histoire, et donc pour arriver aux constellations, c'est quand même bien que je vous donne quelques étapes. Donc ça, Moreno, c'est, on va dire, dans les années 20. Ensuite, il y a une psychologue américaine assez connue qui s'appelle Virginia Satir, qui s'est intéressée aux familles, à la communication dans les familles, et qui a mis au point une thérapie familiale qui s'appelle les sculptures familiales. La sculpture familiale. Donc parfois, quand les gens connaissent, me demandent aussi, est-ce que les constellations, ce sont des sculptures familiales? Ça n'est pas vraiment des sculptures familiales. La sculpture familiale se fait avec la famille, c'est-à-dire que une famille vient et chacun donc va positionner un tel comme ça, un tel comme ça, telle posture, etc. Et donc chacun montre sa vision de la famille. Et il s'agit toujours de travailler sur les liens et les relations, parce que c'est ça qu'on travaille. Et de changer peut-être parfois, justement, certains liens, certaines relations, améliorer la communication, d'accord, pour trouver de nouvelles solutions. Là encore, l'idée, c'est de trouver de nouvelles solutions, mais à partir de la famille elle-même, qui vient et en faisant des sculptures familiales, comme ça, donc chacun, on vient à une famille, je sais pas, l'enfant, le premier, montre, met sa famille en scène, avec des gestes, il peut même dire, est-ce que ça lui évoque. Quelque chose de particulier, etc. Et ainsi, chacun voit la vision des autres, des uns et des autres, et essayer, en fonction de ça, donc, de trouver de nouvelles solutions. Donc, ça n'est pas les sculptures familiales non plus, même si ça peut aussi être utilisé, pourquoi pas, comme, on va dire, moyen de thérapeutique. Ensuite, il y a toujours. Dans l'école de Palo Alto, finalement, qui a donné beaucoup on va dire, de fruits dans les thérapies aux États-Unis, il y a Batson et Jackson, qui sont donc là aussi deux thérapeutes qui ont travaillé sur la communication dans les familles, qui ont mis à jour un certain nombre d'ailleurs de terminologies qu'on utilise dans les constellations. Donc il n'y a pas de Bertellinger, qui sont bien antérieures à lui, comme justement le système familial, ou la notion d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre dans un système. Tout système cherche son équilibre. Donc il y a des lois internes à la famille, ce qu'ils ont mis en évidence, et ils ont étudié des cas de schizophrénie en montrant que la schizophrénie ne venait pas d'un problème extérieur ou d'un individu, mais venaient d'une communication défaillante au sein des familles. Donc c'est eux qui ont mis un peu en évidence aussi une autre notion qu'on connaît souvent, ça s'appelle la double contrainte. Hein, vous savez ce que c'est la double contrainte ? C'est, par exemple, quand on dit « aime-moi ». C'est-à-dire là où la liberté doit régner, aimer, on en fait un impératif. Ou « détends-toi ». Alors là, bon, c'est-à-dire double contrainte. On émet deux choses. Ça, c'est très subtil et ça vit énormément dans les familles. Oui. C'est-à-dire, il y a des implicites qui ne sont pas dits, mais que tout le monde sait et auxquels tout le monde essaie de se conformer pour être accepté par cette famille. On le verra. Et donc, cette double contrainte, elle est, on pourrait dire ça, un élément qui... aujourd'hui encore, et on va rechercher un petit peu cela, c'est-à-dire comment finalement, il y a des non-dits, hein, c'est essentiellement les non-dits, c'est-à-dire on se comporte d'une façon, mais on veut dire autre chose derrière. Hein. Ou vous dites quelque chose, soi-disant, de gentil à quelqu'un, mais en ayant un regard dur, vous voyez, par exemple. Donc il y a des messages comme ça qui vont être envoyés, puisque nous sommes des êtres de résonance, y compris résonance inconsciente, de langage, nous sommes des êtres de langage et différents niveaux de langage, nous allons capter tout ça. Car tout ça, bien sûr, est inconscient et caché. Et c'est ce qui va amener des souffrances, souffrances qui vont se cristalliser dans une famille, voire traverser les générations voire y venir. Donc, Batson, Jackson ont mis au point ça, et donc ils ont formulé donc, sur la notion de système. Donc, pas mal de notions. Donc, l'homéostasie, hein, c'est-à-dire la tendance que tout système vivant cherche son équilibre. Si vous faites une entorse, oui, bah, votre corps va compenser ailleurs pour continuer à marcher. D'accord ? C'est-à-dire que c'est une loi naturelle, finalement, la compensation, parce qu'on cherche l'équilibre. Et quelque part, c'est assez... fondamentale aussi dans beaucoup de nos attitudes. Mais on ne cherche pas toujours l'équilibre dans une transformation, une amélioration. On la cherche parfois, l'équilibre, on cherche parfois dans la souffrance, inconsciemment. Bon. Et ensuite, il y a un médecin romain qui s'appelle, il y a toujours un nom pas possible à prononcer, c'est Bojan-Méninagi, enfin peu importe le nom, en tout cas lui, il a parlé aussi des loyautés invisibles. Donc c'est quelqu'un qui, là aussi, a eu un apport dans les thérapies familiales et du vocabulaire qu'on va utiliser ensuite dans les constellations. Donc finalement, Bert Hellinger, c'est dans les années 80. Dans les années 80. Alain Jatir, c'est dans les années 50-60. Voilà, c'est à peu près ces dates-là. Ensuite, donc les Américains, Bert Hellinger, donc, on va dire les années 80, la thérapie... Donc une thérapie assez originale qu'il va appeler donc les constellations familiales, qui vont quand même reprendre un certain nombre de choses donc des thérapies précédentes. Et qui, alors Bert Hellinger, donc il a été philosophe, il a été théologien et pédagogue. Et il a passé en Afrique du Sud environ 16 ans comme missionnaire dans une tribu Zoulou. Puis il est rentré, et quand il est rentré... Il est sorti des ordres, en fait. Il a fait une psychanalyse, est devenu psychanalyste. Et après, il s'est intéressé à différentes formes de thérapie. Aussi. Et c'est ainsi que tout ça a combiné, après, dans son expérience, aux constellations familiales. Donc, ça veut dire que c'est important de connaître d'où vient quelqu'un, parce qu'on comprend aussi, après, beaucoup de choses sur son orientation. Donc il est philosophe, il est pédagogue et il est théologien. Et ça va montrer aussi que pour lui, les constellations ne sont pas une psychothérapie, ont une dimension évidemment extrêmement spirituelle, hein, même, et qui va appeler d'ailleurs les mouvements de l'âme. Chose que certains thérapeutes ne comprendront pas. Beaucoup de psychothérapeutes ne comprennent même pas le langage de Bert Hellinger. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que des mouvements de l'âme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. En tout cas, quand même, essayer de comprendre le sens des constellations. Donc la famille est un système, on a dit, la notion de système. Qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est l'association de deux éléments au moins. Un individu, un organisme humain est un système, une famille est un système, un couple est un système vivant, hein, une entreprise et ses employés sont un système aussi, une association, etc. Bref, la notion de système, on pourrait dire qu'elle est extrêmement vaste, qu'elle couvre, on va dire, la plupart de... la plupart des groupes, des organisations, ou même, comme on disait, au sein d'un corps, dès qu'on commence à regarder, c'est un petit peu aussi la notion, finalement, d'interdépendance, les choses sont reliées entre elles, mais un système, ça veut dire que ça a aussi une certaine configuration, délimitation, et ça a aussi des règles, c'est ça que ça veut dire. Et la première règle d'un système, c'est de rester en équilibre, ou chercher son équilibre. C'est ce qu'on appelait l'homéostasie. Tout système tend à s'équilibrer. Oui. Si on s'intéresse ici au système familial. Mais on pourrait faire, bien sûr, et c'est pourquoi il y a des constellations aussi d'entreprise, ou des constellations sur le corps. Tout le monde ne fait pas ça, mais moi, ça m'est arrivé d'accepter toutes les formes de constellations concernant tout système. Vous faites un rêve, on peut mettre en constellation. Vous avez une maladie, on met les organes du corps en constellation. On peut faire des constellations entre les peuples aussi, bien sûr. Hein? Donc, les constellations concernent toutes les formes de système. Mais il se trouve que le plus influent de tous les systèmes que nous connaissons quand même, dans notre vie, en tant qu'individu qui veut vivre sa vie, on va dire plus sereinement, être plus libre et plus heureux, ben c'est quand même le système familial. Qu'on doit un peu inévitablement les regarder, et parfois dans les problèmes aussi professionnels, on va retrouver les structures familiales, même si on part sur autre chose. Parce qu'il y a dans le système familial, donc cette notion d'équilibre et cette notion aussi de conscience familiale ou systémique. Conscience ici, ça comprend aussi bien conscience qu'inconscient. D'accord ? C'est une notion, on va dire, comme quand on parle de conscience individuelle. On a une conscience individuelle, mais c'est un inconscient. Hein? Ça, Jung l'a déjà dit, une conscience collective et un inconscient collectif. Mais souvent, on oublie qu'on est traversé par tout ça. Mmh. Et la famille, c'est pareil. Il y a des choses qu'on sait, mais les choses qui vont agir sur nous sont des points aveugles. On ne les voit pas, sont cachés. Il faut donc les révéler. Donc, les constellations familiales, c'est aussi montrer ce qui est caché. Et c'est une thématique récurrente, finalement, de toute transformation. Comment réussir à voir ce qui est caché? Si on a un problème ici, c'est qu'on n'a pas vu la solution. Si on avait vu la solution, il n'y aurait plus de problème. Donc, des choses nous sont cachées, où nous sommes aveugles nous-mêmes, parce que parfois nous posons les solutions dans les mêmes termes que les problèmes, donc nous ne pouvons pas voir les solutions. C'est pourquoi les constellations, on verra, sont une façon de faire qui n'est pas d'aller vers encore et encore ressasser ce qu'on sait déjà du problème, mais s'ouvrir à ce qu'on ne voit pas, ou à ce qu'on n'a pas vu, à ce qui est caché, pour que cela se montre. Après, est-ce qu'on accepte que cela se montre? C'est encore une autre étape. Hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage, effectivement, de regarder ce qui va se montrer. Et qui peut-être contredit un peu notre interprétation jusqu'ici du problème ou de la solution. C'est comme ça que parfois, alors, il y a plein de choses, mais des personnes prennent très très mal les constellations parce qu'elles voudraient voir quelque chose comme ça et c'est autre chose qui est montré. Alors, dans ces cas-là, qui est responsable? Alors, ça peut être celui qui fait la constellation ou celui qui guide la constellation, non? C'est un peu délicat parfois, vous voyez. Donc c'est important de comprendre la position qu'il s'agit d'avoir. Et pour ça, il faut expliquer aussi ce que sont les constellations inévitablement. Ouais. Donc il y a des lois, il y a des lois du système familial, de cette conscience, on va dire, et cet inconscient familial. Une des premières lois, on va dire, c'est la loi d'appartenance. « C'est un lien très fort. Quand un enfant arrive au monde, viscéralement, sa survie, évidemment, matérielle, dépend de son environnement, de son entourage, donc de la famille dans laquelle il arrive, mais sa survie émotionnelle aussi. C'est-à-dire que appartenir est un lien extrêmement fort du simple fait d'arriver dans une famille. Que cette famille soit aimante ou pas, que cette famille soit en équilibre ou pas, que cette famille, quelle que soit la famille, vous arrivez dans une famille et vous appartenez d'une façon très forte à cette famille, très puissante. Même si après vous partez, même si vous décidez que vous n'avez pas les mêmes valeurs, etc., vous appartenez, ce lien est très fort, ce lien est très puissant. Oui. Alors, qui dit appartenance dit on va voir ensuite des dynamiques de souffrance quand ce lien d'appartenance est mis en question. C'est ce qu'on va appeler l'exclusion. Hein, c'est-à-dire, l'exclusion, c'est la punition la plus terrible, plus grave que la mort. C'est pourquoi même parfois on va se mettre en danger de mort pour continuer à appartenir plutôt que d'être exclu. L'exclusion va se manifester de plein de façons. L'exclusion, c'est être abandonné, c'est ne plus parler de quelqu'un, c'est en avoir honte, c'est faire comme s'il n'appartenait pas à la famille, c'est ne plus jamais, donc, comme on disait, l'honorer, lui donner sa place, l'évoquer, etc. Et pour toutes sortes de raisons qui individuellement peuvent parfois se comprendre, mais qui au niveau des lois du système familial va engendrer une blessure forte que quelqu'un va devoir réparer. C'est-à-dire, il va y avoir un déséquilibre. L'exclusion est un déséquilibre. On emploie parfois l'image, vous avez un mobile avec différents, on va dire, points qui équilibrent le mobile. Vous enlevez un point, ça déséquilibre l'ensemble du mobile. Il faut compenser et rééquilibrer. On disait tout à l'heure, pareil pour le corps, hein, vous avez une blessure là, il faut rééquilibrer ailleurs pour continuer à avancer. Ce rééquilibrage peut se faire avec intelligence, avec positivité et même quelque chose qui vous fait grandir, ou ça peut être quelque chose qui vous bloque totalement, qui vous fait souffrir, fait que votre vie est un échec, dans différents domaines. On ne sait pas, il faut examiner. Ce qui est important de voir, c'est qu'on est tous des êtres différents, on va tous réagir différemment aux choses. Hein. Quand je dis ça, il ne faut pas prendre non plus les choses au pied de la lettre, on va dire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez parfois vécu des exclusions douloureuses ou être dans des familles difficiles, ou même que vous êtes intriqué, on y reviendra, que vous avez pu faire de ça inconsciemment quelque chose. Dernièrement, j'étais au musée d'Ali et je connaissais déjà cette histoire, du coup ça m'a remise un peu en tête. Salvador Dali, vous connaissez, hein, et il a peint beaucoup l'Angélus de Millet. Et il a eu un frère, en fait, Dali, qui est né... on va dire, son frère avait 2 ans, son frère est mort, apparemment de la faute de son père. Bon, c'est assez obscur, cette mort. Cet enfant était très adulé, et Dali, 9 mois après le décès de son frère, naît, et il porte le même prénom. Ouais. Et lui-même a dit longtemps que sa provocation, c'était pour dire « Moi, je suis vivant, je ne suis pas mort. » Et c'était directement lié, bien sûr, à cette histoire familiale. Et il en a fait quelque chose. Oui. Ça a donné à son existence un sens, une créativité incroyable, etc. Et, bon, c'est-à-dire que là encore, nous sommes des êtres, comme on disait hier, uniques et tout à fait banals en même temps, mais chacun fait. Mais nous ne pouvons pas nier non plus que la plupart du temps, ça peut engendrer des déséquilibres tels qu'il y a des souffrances ou des violences, c'est-à-dire suicide, maladie grave, etc. Il faut aller regarder ça. Parce que souvent, Ellinger dirait, c'est pratiquement sûr, c'est à l'intérieur du système familial et ancestral qu'il faut chercher. C'est rarement des raisons extérieures qui amènent à des actes aussi graves que le suicide ou certaines maladies qui font que... Bon, je vais vous expliquer après, vous comprendrez un petit peu mieux, cette dynamique de souffrance quand on est dans, justement, donc, la blessure de l'exclusion. Donc l'exclusion, ça peut être aussi être déshérité, trahi, etc. Il y a plein de façons d'être exclu. Le système familial est fort, mais dans d'autres systèmes, c'est fort aussi. Quand des gens appartiennent à des entreprises ou à des communautés religieuses, qu'ils en sont exclus, ce sont de grandes blessures. Oui. via des sociétés traditionnelles où on exclut plutôt même que condamné à mort, oui, parce qu'on sait que l'exclusion est une souffrance plus grande. Vous sentez ça en vous ?
Oui.
Donc ça va nous amener aussi à... Est-ce que moi je me vis comme exclue, par exemple ? Est-ce que dans ma vie je me dis je suis toujours exclue ? Est-ce que là vous arrivez dans un groupe qui est un système ? Là nous créons un système qui a ses règles. Les règles c'est on est ensemble, faire des constellations, etc. Et si tout d'un coup quelqu'un se met à se lever puis à faire des tas de choses, on va tous être affectés. De façon différente, suivant notre histoire. C'est ça. Donc un système a ses règles. Ça n'a rien de... C'est aussi des règles qui permettent à ce système d'évoluer, hein, et d'intégrer les changements. Parce que pourquoi un système tend à son équilibre ? C'est aussi parce qu'il est confronté en permanence aux changements. Les changements, ça peut être des changements extérieurs, bien sûr, déménagement, conflits avec d'autres, divorce, perte de je ne sais pas quoi, les changements... Et puis, il y a les changements intérieurs aussi, les cycles de l'âge, il y a des changements dans un individu même, qui est un système, et puis aussi dans les phases de la vie. Donc, est-ce que nous arrivons à intégrer le changement pour évoluer, ou est-ce que nous ne pouvons pas intégrer le changement ? Donc, il y a des systèmes qui vont être très fermés sur eux-mêmes et très excluants du changement même. Ça va être des familles où presque on va se marier les uns entre les autres, on va faire les mêmes professions, tout va être pareil. Par exemple, mais n'en déduisez pas que parce que c'est comme ça, c'est forcément pathologique. Mais il faut regarder là encore, toujours examiner précisément. Est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que ça va relativement bien par rapport à ça ? On ne sait pas, il faut regarder ça. Donc comment, par rapport aux changements, les changements sont intégrés, même dans notre vie personnelle ? Est-ce qu'on intègre les changements qui arrivent ou est-ce qu'on bloque, on n'y arrive pas, etc. Et surtout dans l'exclusion, est-ce qu'il y a eu des exclus dans nos familles ? Est-ce que je fais comme quelqu'un qui a été exclu ? Est-ce que j'ai l'impression que ma vie répète la vie de quelqu'un ? Même si je ne l'ai pas connu, même s'il est mort. Donc on va évidemment rechercher les exclusions. Vous avez un conte qui illustre bien ça, c'est le vilain petit canard. Le vilain petit canard, hein, qui vient au monde. Et là, tout le monde dit oh, « qu'est-ce qu'il est moche !» Et la mère dit bah, « elle n'est pas si moche que ça quand même !» Elle finit presque par l'accepter. Mais elle sent bien, on remarque autour, que si elle accepte ce vilain petit canard, oui, elle sera elle-même exclue. Donc, elle l'exclut, pour ne pas être exclue. Et ça, par exemple, c'est thématique. À une époque, les femmes avaient des enfants. Maintenant, ça a changé. Mais quand on avait un enfant, qu'on n'était pas marié... Eh bien, parfois, il fallait se débarrasser de l'enfant pour pouvoir... Parce que la souffrance d'être rejetée par le milieu familial ou social est une plus grande souffrance que d'abandonner son enfant. C'est inconscient, bien sûr. Vous comprenez ? Et en même temps, voilà, parce qu'on subit aussi toutes ces pressions sociales environnantes. Aujourd'hui, ça s'est un peu déplacé. C'est surtout quand on n'a plus de travail, on fait comme si on en avait encore. Donc, nombre de personnes, par exemple, n'ont jamais dit qu'ils n'avaient plus de travail. Si on continue à les travailler, après on tue leur famille plutôt que de le révéler. Ouais. Vous voyez, c'est... Donc il y a toujours évidemment une pression sur l'individu qu'il gère d'une façon pathologique ou qu'il gère d'une façon... Parce qu'après tout, on pourrait dire, bah, si nous on assume le destin, si on arrive à faire avec, alors on va être résilient. Mais sinon, on va compenser d'une façon pathologique, voire aller jusqu'à la violence, la mort, le suicide ou tuer les autres... pour pas leur révéler. Hein, vous voyez, donc c'est quand même très fort, l'appartenance. Vous voyez combien aussi les adolescents essaient souvent de se comporter comme les autres, pour appartenir à leur classe, à la seconde, à la première, à la terminale, enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire être comme les autres. Parce que être exclu, rejeté, est une souffrance que nous craignons tous. Mais en même temps, c'est... On doit aussi aller notre propre chemin, notre propre destin. Et donc, on est pris entre l'appartenance et vivre son propre destin et se libérer de toutes les formes pathologiques d'appartenance. Donc, l'exclusion. Ensuite, il y a ne pas, comment dire, il y a l'importance de la place. La place est un ordre naturel et chronologique, tout simplement. si ici nous honorons ceux qui sont là avant nous, c'est parce que s'ils n'avaient pas été là avant, nous ne serions pas là après. C'est tout bête. Le premier dans une famille, c'est l'aîné. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. C'est pas qualitatif, d'accord ? C'est chronologique, simplement. Les aînés sont les aînés, les premiers sont les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, etc. Et ça implique quand même que le premier donne au deuxième, le deuxième a reçu du premier, il donnera au suivant, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même une transmission, un héritage qui, quand une fratrie est bien, par exemple, ordonnée, se fait de cette façon. Et les derniers imitent les premiers pour grandir, etc. Donc là encore, il y a un équilibre, hein, pensez toujours en termes équilibre, qui se fait ou qui ne se fait pas. C'est-à-dire, je n'ai pas ma place, je ne prends pas ma place, on ne m'a pas laissé ma place, on ne m'a pas mis à ma place, et dès qu'on n'est pas à sa place, là aussi, ça va générer des souffrances. Parce qu'il va falloir compenser ce déséquilibre d'une façon ou d'une autre. Par exemple, il se peut même que dans une famille, par exemple, aujourd'hui, on assiste parfois à des choses qui sont... Une mère est seule avec son fils, eh bien, le fils peut devenir l'homme. Vous voyez, c'est-à-dire, il va prendre la place de l'homme, du conjoint, du compagnon. Or, ça n'est pas sa place. Traduisez ça comme vous voulez. C'est-à-dire que tous les enfants qui ont été à une place de parents alors qu'ils étaient des enfants vont avoir l'impression de ne pas avoir eu d'enfance. Hein? Ils vont être grands trop tôt. Ils vont être mûrs trop tôt. Alors, ça peut leur donner une maturité humaine très importante sur certains plans, mais il peut y avoir aussi parfois une souffrance liée au fait d'avoir manqué un peu son enfance, d'avoir eu cette impression d'avoir porté quelque chose de trop lourd pour soi. Hein, ça, c'est aussi une autre thématique qui est liée aussi à la place, et puis après, c'est ce qui vient après. Finalement, ces thématiques sont plus ou moins reliées, qui est le déséquilibre ou l'équilibre entre donner et prendre, donner, recevoir. Mais déjà, la place, vous voyez, là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous prenez votre place, même dans votre vie? Est-ce que vous dites souvent, oh ben moi, je n'ai jamais de place. Moi, on ne me voit jamais. Moi, je suis toujours à la dernière place. Est-ce qu'il y a une thématique comme ça? Où je n'arrive pas à prendre ma place? Ou à chaque fois que je vais prendre ma place, pouf, ça y est, c'est sûr, je ne la prendrai pas. Vous sentez ça un petit peu sur des questions? Même ça va de la place de parking à la place dans sa vie. À la place dans sa vie. Bon. Sachant qu'on est toutes plus ou moins occupées par ces questions, bien évidemment, mais on doit déjà les regarder. Est-ce qu'on a eu notre place? Alors, va se jouer, là, évidemment, la question de la place, par exemple, dans une fratrie, s'il y a eu des enfants mort-nés, des enfants cachés, hein, parce qu'évidemment, le thème du caché, c'est aussi lié à la vie sexuelle, à la mort, parce que qui donne la vie donne la mort. Donc, et on sait bien que dans le domaine, on va dire, affectif, émotionnel, il y a beaucoup de choses cachées et non dites. Est-ce que, par exemple, tout d'un coup, on apprend que, ah ben tiens, on avait un demi-frère, une demi-sœur, on n'avait jamais su. On apprend ça, et tout d'un coup, ça éclaire des choses, peut-être, sur... je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est tiré d'un livre de Philippe Grimbert, s'appelle Le Secret, hein, de... C'est pendant la guerre 40, donc il y a, on voit un enfant qui naît d'un couple et qui a toujours l'impression qu'il y a un autre, qu'il a un frère, en fait. Il le voit, il a des visions comme ça. Et finalement, il apprend ensuite un secret, un non-dit, qui était que pendant la guerre, son père a été marié, il a eu un enfant, et que cet enfant, à un moment donné... pour toutes sortes de, aussi d'histoires qui étaient... Évidemment, la mère était juive, et donc il y avait la peur d'être embarquée. Donc, à un moment donné, il y a une stratégie pour fuir. Mais en même temps, il y a une autre histoire sentimentale plus compliquée, c'est que le père, au moment de se marier, tombe amoureux d'une autre femme. Et donc, un jour, la femme, cette première femme avec son fils, réalise, comprend ça, elle voit ça, elle voit... Et en même temps, il y a la guerre en même temps. Elle est juive et elle peut se sauver. Et donc, à un moment, il y a cette scène où elle a deux cartes d'identité. Elle peut passer pour se sauver, oui, aller rejoindre son mari, mais elle sait aussi qu'elle va aller rejoindre, voir peut-être cette autre femme, etc. Alors qu'il n'y a rien, hein, mais elle a juste vu quand même qu'il y avait quelque chose. La preuve, c'est qu'ils se marieront ensuite. Mais ça ne sera pas simple. Oui. Parce qu'elle va avoir toute cette culpabilité à porter. Et au moment où elle doit donner sa fausse carte d'identité, elle donne la vraie, où c'est écrit qu'elle est juive. Là, évidemment, elle est embarquée. Et quand son fils sort des toilettes, elle dit « c'est mon fils ». Ils sont embarqués. Et donc, évidemment, ils n'arrivent jamais à destination. Ce qui fait qu'ensuite, donc, l'homme se marie avec cette autre femme dont il était tombé amoureux, et qu'il a un fils, et que ce fils, alors on les voit en permanence, met une assiette supplémentaire, etc. C'est-à-dire, ça transpire par tous les pores, le non-dit. Hein, et c'est souvent comme ça que ça... Quand on sait, un jour, ça éclaire un certain nombre d'attitudes qu'on avait, ou d'intuitions, se confirme. Alors, donc, la place, c'est celle-là. Donc, lui, il n'était pas le premier, il était le deuxième, quelque part. Ouais. Et en plus, il y en a un qui est mort pour que lui soit. Vous voyez ? Ça fait une dette, une faute, entre guillemets. Donc, la question de la place. Est-ce que, donc, nous sommes à notre place, ou est-ce que nous n'avons pas pris, ou on ne nous a pas donné notre place ? Mais aujourd'hui, on doit prendre sa place. Vous êtes d'accord ? Prendre sa place.
Pas toute la
parce que ça demande du courage, parce que n'oubliez jamais les bénéfices secondaires de toutes nos compensations. Hein, c'est-à-dire, si je ne prends pas ma place, je ne me montre pas, je ne prends pas de risque. D'après, je dis, je ne suis pas bien là, j'en ai marre d'être là. Mais voilà. Ah oui, je vais aller là. Ah oui, ce serait bien. Parce que là, on est vu, d'accord ? Et si vous voulez que la vie vous voie, vous montrez. Sinon, on ne sera pas vu. Dans les constellations, assurez-vous, vous allez être vu. Et c'est déjà un bienfait par rapport à un certain nombre de problématiques qu'on a, qui est, je ne veux pas trop me montrer, je veux jouer à cache-cache un petit peu. Ensuite, il y a, donc, par rapport à ça, c'est évidemment le déséquilibre, c'est tout ce qui va perturber la place. Hein, c'est pas prendre sa place, hein, ne pas respecter la place. Donc dans les constellations, tous ceux qui ont été exclus aussi, on va leur redonner une place dans l'ordre de la famille. En fait, les constellations concernent rééquilibrer l'ordre qui a été perturbé et qui s'est équilibré dans la souffrance. Et parfois, c'est un ancêtre qui veut revenir. Celui dont on a honte, par exemple. Celui qui avait une vie de patachon. Hein, ou celle qui avait des mœurs. Donc, on n'en parle pas. Hein, on fait comme si ça n'existait pas. Et tout d'un coup, il y a peut-être un petit descendant, une petite descendante qui a le même comportement. Ou qu'on se met dans des situations telles que on est interpellé. Donc, il faut réintégrer les ancêtres et tout le monde s'en sent mieux. L'ensemble du système se rééquilibre. Mais il n'y a jamais un équilibre statique, puisque nous sommes vivants. Donc, nous sommes forcément dans un équilibre dynamique. D'accord ? Hein ? Donc, c'est pas parce que les choses vont aller mieux que ça va aller mieux absolument. Ensuite, il faut aussi participer nous-mêmes avec plus d'intelligence à de meilleurs équilibres. Et pour ça, il faudra sortir de la bonne conscience qu'on a à souffrir. Voilà une notion intéressante développée par Émile Durkheim, c'est la bonne conscience. Pourquoi ? Parce que si je souffre, j'appartiens à ce système. Et donc ça me donne bonne conscience. Mettons, vous avez quelqu'un, un frère qui est handicapé. Et vous ne l'êtes pas. Alors si vous souffrez un peu, si vous vous rabaissez un peu, alors vous avez bonne conscience. Il faut sortir de cette bonne conscience pour accepter d'être qui vous êtes aussi. Et parfois, ça, vous n'arrivez pas à payer ce prix-là. Oui ? Vous sentez un peu ça ? Ça, c'est très subtil et c'est très intéressant comme notion. Cette notion de la bonne conscience dans la souffrance. Oui ? Qui me permet de dire, ah ben voilà, je minimise un petit peu la souffrance de l'autre. Et on verra, tout ça part aussi d'un amour que nous avons tous. En fait, par amour, il y a un amour qui fait souffrir. Il y a un amour qui nous rapetisse. Et puis il y a un amour qui nous grandit, qui nous guérit. Celui-là, il est le fruit d'une vraie transformation, d'une vraie quête. En fait, on cherche, c'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est par amour. C'est bête, hein ? Hein? Parce qu'on veut sauver les autres, on veut être aimé, on veut continuer à appartenir, on veut protéger, on veut, et donc on va soi-même souffrir, c'est-à-dire qu'on aura deux souffrants au lieu d'un, en clair. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas ne pas faire que l'autre souffre. Et quand on comprend que ça ne sert à rien, alors peut-être qu'on agit différemment ensuite. Et ensuite, il y a donc l'équilibre entre donner et prendre ou recevoir. Les équilibres se jouent partout. C'est-à-dire, par exemple, vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas assez d'argent par rapport à ce que vous faites comme travail, ben c'est un déséquilibre, c'est une souffrance. Il faut rééquilibrer. Alors, il y a des rééquilibrages qui peuvent se faire assez facilement, on va dire, au sens où vous pouvez aussi exposer le problème et puis faire que ça change. Ça peut être aussi dans un couple, l'un donne et trop par rapport à ce que l'autre donne. Déséquilibre, là aussi, souffrance, compensation, souvent ressentiment, accumulation de non-dits, et un jour, explosion. Soit implosion, soit explosion. À la limite, l'explosion, c'est encore... La crise est encore une manifestation de santé. Enfin, on va pouvoir rééquilibrer. Mettons les choses sur la table, allez, comme le battleur du tarot. Allez, on y va, on déballe le linge sale. T'as d'accord pour trouver une solution, communication non violente, tout ça, on fait des stages, tout ça. Ouais, bon, allez, c'est reparti. Mais peut-être qu'il y a d'autres problèmes derrière, et qu'à la prochaine difficulté, si la personne ne prend pas soin non plus de sa propre évolution, sa propre transformation, alors ça repart, ouais, ça recommence. Hein, parce que changer, c'est beau, mais si on ne fait rien pour changer, il ne se passe rien. Hein, au sens, si on doit se délivrer d'un certain nombre de... peut-être de fardeaux qui entravent des relations. Parce qu'évidemment, par exemple, dans un couple de personnes, vous êtes, voyez bien, c'est minimum deux. Hein. Vous mettez les familles derrière, mais là, vous avez du monde. C'est exactement ce qui se passe. À travers un individu, il y a un loup derrière qui dit « Eh, vas-y !» Et l'autre « Attends !» C'est le champ de bataille. Donc on connaît tout ça, évidemment, hein, ces difficultés de... Et en même temps, c'est aussi ce qui nous permet de nous connaître, finalement. C'est à travers la relation à laquelle nous ne pouvons pas échapper, que ce soit une relation à deux, ou que ce soit une relation où qu'on soit, on est en relation, donc de toute façon, on a toujours des effets miroirs. Donc ici, il s'agit d'essayer d'équilibrer cela, et pas par la souffrance, évidemment. Parce que sinon, on est dans des rôles de victime et bourreau. Hein, c'est-à-dire, l'autre fait souffrir, tout il fait souffrir, et ben d'accord, je souffre, surtout si on a un syndrome du genre je dois expier une faute, etc., etc. Alors là, vous vous en prenez plein la figure et vous acceptez ça. Vous l'acceptez sans l'accepter, mais vous finissez parfois même par l'accepter tellement qu'il y a des personnes qui, bien qu'elles veuillent ne plus être victimes, elles aiment être victimes. Ça leur donne une bonne conscience. Elles sont attachées à ça, à ce rôle. Ces lois des systèmes vont donner des dynamiques de souffrance. Trois dynamiques. La première dynamique, c'est « je te suis ». C'est ce qu'on va essayer de repérer dans les constellations. Quelles sont les dynamiques de souffrance à l'œuvre ? « Je te suis ». Agnès ? Et Rachel ? Oui ? Non, par exemple, nous avons ici, on va dire, une mère. Et voilà sa propre mère. Et voilà son enfant, sa fille. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant arrive ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut être vu par sa mère. Il veut être sous le regard de sa mère. Oui ? Mais sa mère est là, bien sûr. Hein ? Mais où est-ce qu'elle regarde ? Là. Elle regarde là. Elle est attirée là, vers sa propre mère. Et l'enfant l'a perçu tout de suite, elle a regardé aussi là. Là, regarde ma mère, l'enfant regarde. Oui. Donc, là, il n'est pas libre de regarder ici. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise mère, ça veut dire que quelque chose en elle, inconsciemment, qu'elle ne peut pas faire ça. Parce qu'elle est liée là. Tout ce qu'on n'a pas résolu fait des liens forts, en fait. Hein? Alors, que pourrait faire l'enfant, par exemple? Il pourrait, alors je vous montre, hein, c'est, elle pourrait soudain aller là. Si le destin était tragique, elle pourrait répéter ce destin parce que là, elle est vue. Hein? Et à travers ce destin, celle-ci est rappelée. Donc, il faut faire travail. C'est-à-dire qu'elle pourrait, quand elle fait ça, ici, quand elle va là, et je te suis. Je te suis dans la mort, je te suis dans ton destin tragique, je te suis dans la maladie. Et l'enfant peut faire, je le fais à ta place, on verra, c'est le deuxième. L'enfant va faire à la place. Moi aussi, à la place. Pour éviter à toi de faire ça, moi je le fais. Hein? Donc à ce moment-là, ce qu'il faut là aussi faire, c'est résoudre cette intrication-là, d'abord. Libérer la mère ici. On va voir comment. De sorte que. Et là, on voit que ça peut être très plus fort. Hein. Oui, très vite. Très vite. Nous sommes des êtres de résonance. Et si nous laisse, ça prend, même en exercice. Et là, une fois, alors celle-ci veillera, sera là avec bienveillance, et même pour elle, pourra partir aussi. Si elle est décédée, par exemple, pourra la laisser partir. Mais elle sera toujours bienveillante ici. Et là, à ce moment-là, peut-être, la mère dira, je te vois, en la regardant dans les yeux. Parce que c'est comme ça qu'on fait exister quelqu'un. C'est pas genre, oui, je te vois, je t'ai vu, ouais, je t'ai vu. Ouais. Mais si je te vois, je te raconte. Bien sûr que je te vois. L'important, c'est les regards dans les constellations, les places et les regards et les phrases que nous allons dire. Oui. Vont nous libérer au niveau des mouvements les plus subtils qu'on appelle les mouvements de l'âme. Et c'est pourquoi ça n'est pas un jeu de rôle, car c'est le constellateur qui donnera les phrases à dire. Pourquoi? Parce que sinon, on rejouerait toujours les mêmes scènes. On rejouerait toujours les mêmes problèmes. On n'en sortirait pas, c'est sûr. Le constellateur est là pour dire, arrête de faire ça. Fais plutôt comme ça. Et dis ça. Est-ce que tu le sens un petit peu de dire ça? Parfois, ça va mieux. Oui, ça va mieux en disant, on se sent mieux. Oui. Et constellation, c'est ça. Aller vers un nouvel ordre, c'est-à-dire une nouvelle image intérieure, une nouvelle impulsion intérieure qui peut amener des bouleversements dans notre vie. Vous sentez ça un petit peu? Oui. Merci. Donc je te suis dans la maladie, je te suis dans la mort, je te suis dans ton destin tragique. Donc parfois, si vous avez des envies de suicide, si vous êtes anorexique, si vous avez des maladies graves, si vous avez des choses qui vous font frôler régulièrement la mort, des accidents, c'est que peut-être vous voulez suivre quelqu'un dans la mort ou vous voulez le faire à la place d'un de vos parents. C'est l'explication systémique d'un certain nombre de choses. Je te suis. Évidemment, c'est inconscient, répétons-le. On n'est pas conscient de faire ça. Ça se traduit par le destin tragique, parfois. D'où, dans les constellations, parfois, voir cela, qu'on a souffert inconsciemment, tout cela, ça peut être douloureux comme révélation, comprenez? Et en même temps, c'est libérateur, mais ça peut être douloureux. C'est-à-dire, on voit qu'on était pris là-dedans. Et que peut-être on s'est fait des maladies, peut-être on s'est fait des choses terribles, parce qu'on était pris là-dedans. Donc ces révélations peuvent être douloureuses, mais en même temps, elles sont libératrices. Si vous voulez vous soigner parfois, si on vous manipule quand vous avez mal à quelque part, vous aurez encore plus mal, mais vous irez mieux après. Je te suis, et ensuite il y a donc plutôt moi que toi. C'est la suite. Hein. C'est la suite, c'est-à-dire, si on voit, d'ailleurs, ça arrive, les parents sont malheureux, les parents veulent se séparer, un enfant. Parce que partir, c'est pareil. Partir, c'est aller ailleurs. Hein. Donc quelqu'un peut d'ailleurs vouloir partir parce qu'il veut rejoindre quelqu'un ailleurs. C'est une problématique, c'est-à-dire dans la mort ou dans la maladie ou dans son destin tragique. Mais quelqu'un peut vouloir partir et un enfant, on va dire, se faire une maladie. Et dans cette maladie, finalement, il va attirer à nouveau l'attention des parents. Et c'est une façon aussi de faire qu'il reste. Oui. Ou, et en même temps, ça peut être aussi une façon de, comment dire, aller faire à la place de, à la place du père qui veut partir rejoindre, l'enfant le fait à sa place. Hein? Donc, plutôt moi que toi. Donc, vous voyez, ça découle comme on a vu tout à l'heure. Hein? C'est-à-dire, l'enfant, la mère regarde là, ça peut être très tragique ce qu'elle regarde, l'enfant va faire la même chose pour éviter qu'elle le fasse ou qu'il le fasse. C'est inconscient. Oui. Mais parfois, des personnes se rappellent avoir fait un souhait très fort parce que des enfants sont très sensibles aussi, parfois, ils sont très compassionnés. Il faut voir que la plupart des choses comme ça rejaillissent souvent sur les plus sensibles, les plus dans les familles. Et on va dire pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, on ne sait pas, ce n'est pas la question. Mais soudain, un enfant va révéler une souffrance et en même temps, il peut même se rappeler avoir été extrêmement sensible dans la détresse. Vous voyez, la détresse est aussi signe que, qu'on souffre dans l'amour, on souffre, hein, on est dans la détresse, on ne sait pas quoi faire, on voit quelqu'un malade, on ne sait pas quoi faire pour le sauver. C'est ça l'amour, c'est la compassion, c'est déjà en nous. C'est déjà en nous, mais ça aboutit à des choses qui nous rendent malades. Et donc c'est là où ça ne va pas. Et donc, d'où cet amour, il nous faut le cultiver pour être plus heureux et certes prendre la souffrance émotionnelle. Dans certaines pratiques, on fait ça, mais on ne se met pas à la place de l'autre. Au sens, on ne se met pas à sa place pour prendre sa souffrance et qu'il n'aurait plus rien. On n'est pas dans cette pensée magique. Hein. Certains psy disent, c'est l'enfant jusqu'à 3-4 ans, il a une pensée magique. Et cette pensée magique qu'on a tous eue fait qu'on pense qu'on peut contrôler le destin. Et même parfois, on peut se sentir coupable. Si on n'aime pas quelqu'un, qu'il lui arrive quelque chose, on va se sentir coupable de ce qui lui arrive. Donc ça, c'est la dernière, d'ailleurs, thématique. Donc, je te suis plutôt moi que toi. Et ensuite, j'expie à ta place. C'est-à-dire, là, c'est l'idée de expier une faute. C'est en général, je ne le mérite pas, je ne le vaux pas, ça n'est pas pour moi. C'est ce rôle de victime dont on parlait, c'est-à-dire comme si on expiait à la place de quelqu'un, peut-être la faute qu'il a commise ou le fait qu'il ait engendré de la souffrance pour d'autres aussi. On vit ça aussi personnellement, quand on a fait quelque chose qui n'était pas très, très beau, on va dire, humainement. Bah, on sent qu'on n'est pas bien. Alors parfois, on peut faire quelque chose, justement. On peut peut-être aller parler à l'autre, dire je m'excuse, etc. À ce moment-là, on rééquilibre, voyez, hein? Mais quand c'est inconscient, quand ça appartient au système familial et que ça se transmet comme ça, alors c'est plus difficile à déceler, ça. Donc là aussi, il faut aller regarder ce qui a eu du tort, qui a été causé d'une façon ou d'une autre dans la famille, et est-ce que quelqu'un n'est pas en train d'expier... Par exemple, les criminels de guerre, hein, qui regardent leur descendance. Alors, ce qui est merveilleux d'ailleurs dans cette descendance, la descendance par exemple de nazis, qui eux sont, se sont convertis au judaïsme, sont allés aider, ils en ont fait un truc pas possible, quoi. Alors que d'autres peuvent tout à fait, eux aussi, se suicider ou devenir fous, hein, parce qu'ils ne supportent pas. Vous comprenez, là, c'est même à des niveaux très, très élevés, puisque c'est une nation même qui a engendré des souffrances, donc ça a des répercussions. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les répercussions sont plus fortes sur les petits descendants, petits-fils, que sur les enfants eux-mêmes. Donc là encore, on parle évidemment de choses qui traversent les générations. Même des enfants qui n'ont pas connu la guerre, aujourd'hui on s'aperçoit, j'ai publié ça sur mon site, un certain nombre de papiers là-dessus, que parfois c'est comme s'ils avaient vécu. Hein, parce que l'inconscient transgénérationnel est très fort et nous sommes donc des êtres de résonance et d'information. Et donc nous recevons aussi un certain nombre d'informations, même si nous n'avons pas vraiment vécu les événements, passent à travers, en quelque sorte. Donc j'expie à ta place, c'est la culpabilisation, le fait de... Mais là aussi la culpabilisation, alors que on n'a pas à expier, on n'a pas à être peut-être dans cette dynamique. En tout cas, c'est une dynamique, ces trois dynamiques de souffrance sont des compensations. Les compensations donc, peuvent être pathologiques, dramatiques, douloureuses, violentes et difficiles, ou elles peuvent être des compensations créatives qui nous permettent de vivre une vie plus en profondeur, etc., etc. Quand elles sont pathologiques, ces compensations, dans les constellations, on va essayer de les déceler en faisant dire des phrases. C'est les phrases qui vont nous orienter. Hein. Par exemple, à un moment donné, là, la mère pourrait dire, lorsqu'elle rencontre sa propre mère, en la regardant dans les yeux, avec tout son amour, « Je te suis ». Et là, si la personne ressent, c'est vrai ça, c'est vraiment ça qu'elle dit. Alors, on a décelé l'intrication, on va les intriquer. Donc, les phrases que l'on est amené à dire aussi montrent si c'est ça dont nous parlons. Il faut cibler quelle est la problématique dans la constellation pour ramener un nouvel ordre, un nouvel équilibre. Donc, il y a ce mot, et puis il y a ce mot « intrication », »,« loyauté indisible ». Être intriqué, ça veut dire porter le fardeau de quelqu'un d'autre, un fardeau d'exclusion, un fardeau d'expiation, un fardeau, on porte un fardeau pour quelqu'un d'autre, et ce fardeau nous empêche de vivre notre propre vie. Oui ? Et on a la sensation donc, de ne pas être à sa place, de ne pas vivre sa propre vie, de ne pas être libre ou d'échouer là où on voudrait réussir sans comprendre pourquoi. C'est-à-dire les constellations nous permettent de regarder un problème et d'essayer de voir s'il a une origine systémique et d'essayer de sortir, de trouver une autre solution que la souffrance. Donc on ne s'intéresse pas tant aux symptômes qu'à remettre un nouvel ordre, une nouvelle image intérieure dans l'âme de la personne. Oui. C'est-à-dire forcément au-delà de l'interprétation mentale dans laquelle on risque toujours de retomber. Parce que son histoire, on la connaît, tellement qu'on ne la connaît pas. Et donc quand on fait un petit interview avant la constellation, qui est souvent très court, on le fait juste. Mais on ne veut pas savoir l'histoire. Parce que si l'histoire ne nous intéresse pas, au sens, si c'est ce que je me raconte ne m'a pas aidé à trouver la solution. Donc on est ici pour regarder les événements qu'on va pouvoir cibler, liés à notre problématique, et les personnes peut-être aussi, liées à ces événements problématiques, qu'on mettra donc, et c'est la personne, donc quelqu'un veut faire sa constellation, il expose le problème, ou il me le dit en cachet, on ne le dit pas forcément, c'est pas, là encore, ça dépend. C'est pas, mais en même temps, l'entretien vise juste des événements. D'accord ? Donc si je vous arrête parfois en disant « c'est pas la peine », c'est que c'est aussi pour vous protéger et protéger tout le monde de son mental habituel. C'est pour ne pas retomber. Parce que très vite, on capte. Hein, quelqu'un dit « oh, ma mère était comme ça, alors si vous êtes la mère, vous allez jouer ça ». Non, 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 là on veut du... de l'inconnu, de l'imprévu, du neuf. Hein, on ne veut pas du jeu de rôle, justement. C'est autre chose. On ne veut pas du jeu de rôle habituel, parce que ça, on sait que c'est très sympathique, peut-être, mais ça ne va pas nous faire sortir du problème. D'où ça se déroule aussi en silence, et la personne expose le problème, on choisit les représentants, parce que, et elle va prendre, par exemple, si on fait sa famille d'origine, on va prendre ses frères et sœurs, ses parents, par exemple. La personne va les choisir comme ça. Choisir son père, sa mère, elle va demander est-ce que tu veux bien représenter ma mère, est-ce que tu veux bien représenter mon père. Et les personnes vont se lever, vont dire oui, ben viens, présenter, etc. Et après, la personne ira, une fois qu'elle aura choisi tous les représentants qui sont debout, elle ira derrière chacun, mettra ses mains sur les épaules et amènera le représentant dans l'espace, comme ça, intuitivement, naturellement, sans chercher à calculer. Je dis tout ça parce que parfois dans les groupes que j'ai animés au départ, les personnes sont très très... Quand on n'explique pas assez, et même quand on explique, ce n'est pas forcément garanti, mais quand on n'explique pas assez, alors les gens disent « Ah, mais moi je te mets là-bas parce que ah, je vois, les gens savent bien ce qu'ils font et tout, là. » Là déjà ça part mal, on ne calcule pas ça. Justement, il faut se laisser être dans « je ne sais pas ce qui va se passer », donc être très proche de ses ressentis, donc vous serez guidé un petit peu pour être proche justement de ce que vous ressentez, naturellement, intuitivement, vous posez. Et en général, quand la personne a fait ça, on regarde et on a une image extérieure du problème intérieur qu'elle vient d'évoquer avec des mots. Nous en avons une représentation en langage phénoménologique. C'est quoi un langage phénoménologique ? La phénoménologie, ça veut dire qu'il n'y a pas de théorie, tout part de l'expérience des phénomènes sous nos yeux. C'est ça qu'on suit. N'oubliez pas, Ellinger était philosophe, donc il a dit phénoménologique, ça veut dire juste les phénomènes tels qu'ils se montrent à nous. Donc on va être très proche de ce qui se passe. Même le constellateur ne sait pas où on va. Il n'a pas d'idée préconçue. S'il en a, ce n'est pas un bon constellateur. On doit être à l'écoute de l'énergie qui se passe, par comment ça se passe. Ceux qui sont autour sont en résonance aussi, puisque nous sommes des êtres de résonance. Vous n'êtes pas en position de voyeur, vous êtes en position où peut-être même vous, vous allez être drôlement interpellé par cette constellation. Ou choisi, et comme par hasard, ça n'est pas un hasard. C'est une rencontre aussi avec vous-même. Ça fait partie de la magie. Les constellations, moins on fait et plus ça se fait. Ça, c'est dans les coïncidences, les interactions, les synergies, etc. Donc, même on peut faire sa constellation, peut être représentant, sont à chaque fois, on va dire, des rôles qui nous apportent quelque chose de nouveau, parce que ouais, quand on n'a jamais fait sa constellation, qu'on l'a fait, c'est quand même quelque chose de voir. C'est rare qu'on puisse voir un problème qu'on a évoqué sous ses yeux. C'est rare de rencontrer des morts dans les yeux. C'est rare tout ça. Et ça fait du bien. Ça montre qu'on est des êtres qui ne sont pas réduits juste à ce que nous sommes en train de vivre là. Il y a plein de dimensions qui nous traversent. Ça, c'est spirituel. Au sens juste. Ça, c'est quelque chose de vaste, on va dire. C'est ça, l'esprit. L'esprit, c'est quelque chose de... on va dire, qu'on ne peut même pas saisir, qu'on ne peut même pas... Quelque chose se présente à nous là et nous laissons nous traverser et cela nous apporte quelque chose qui œuvre à travers nous. Quelle est la différence entre une psychothérapie et constellation ? Les constellations sont plus proches du chamanisme ou du rituel, quel qu'il soit, même s'il y a des choses qui peuvent... Parce que, par exemple, là, ça n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose. C'est le fait de suivre ces mouvements, quelque chose de plus grand agit à travers tout le monde ici. C'est ça qui soigne. C'est pas une personne qui soigne quelqu'un d'autre sur un temps, oui, de façon temporelle. On se rencontre et puis c'est possible aussi, bien sûr. Mais ici, on travaille avec l'espace. On met dans l'espace. Et en travaillant avec cet espace, comme dans un rituel, si vous faites quelque chose, quel que soit, ben vous allez aménager l'espace d'une certaine façon, vous allez travailler aussi donc, dans cet espace avec un lieu autre, c'est-à-dire qu'on va sortir du temps en quelque sorte. Ce qu'on va voir sous nos yeux, les morts, les vivants vont se rencontrer, on ne sait pas dans quel temps on est. Donc n'essayez pas de voir ce que vous connaissez déjà, parce que ça n'a pas d'intérêt. Si je dis « je ne vois pas ce que c'est », mais non, justement, c'est normal. Ou parfois je vais dire « oui, ça me parle, bien sûr, aussi ». Les deux. Hein. En même temps, la constellation est un moment unique. On ne fait pas une constellation par curiosité. On ne fait pas une constellation... Vous n'allez pas chez le dentiste par curiosité. C'est pareil. Une constellation demande à être pleinement engagé. C'est vraiment important. On est vraiment présent. Et donc, si on est vraiment... C'est vraiment important, on est vraiment présent, ça compte vraiment pour nous aujourd'hui, alors, ce moment unique... aura un impact qui ne sera pas nécessaire de répéter, sera ensuite de le laisser agir, cet impact. Donc il y a quand même un engagement intérieur à laisser agir cet impact ensuite, en respectant un peu les consignes que donne le constellateur pour ça. Ouais, ça va?
Il y, Il y a quelque chose que je me dis par rapport aux trois dynamiques que tu as nommées. Des fois, j'ai l'impression que je te suis parce que, dans la maladie par exemple, parce que plutôt moi que toi, et afin d'expier à ta place, quoi. Enfin, que tout ça est aussi...
Ça peut, aussi, hein, ça, des fois, ça peut. Ouais. C'est, après, ces trois dynamiques principales, il y en a plein des dynamiques, d'accord ? C'est-à-dire, c'est comme toujours, ça nous donne une idée des principales dynamiques, mais les choses sont toujours, de quelque sorte, un peu mêlées.
Ouais,
parfois, on peut retrouver les trois, parfois surtout une. C'est... Mais c'est des lois que, dans l'expérience, on va dire, on a pu remarquer qu'elles agissaient dans les systèmes, dans le système familial par exemple, que ces lois donc, de compensation d'un équilibre rompu, d'un équilibre pathologique dû à des non-dits, des choses cachées, mauvaise communication, exclusion, déséquilibre entre donner et recevoir, etc., etc. Donc tout ça agit. Alors, il y a vraiment, on va dire, deux systèmes auxquels, on va dire, on est particulièrement attentif ici. C'est le système d'origine, c'est-à-dire la famille d'origine. Alors, qui appartient à la famille d'origine ? La famille d'où on vient ? C'est tous nos frères et sœurs et nous, nos parents. Leurs ex-conjoints sont importants. Un enfant peut être intriqué si une relation s'est mal passée avec... la femme ou l'homme qui a compté dans la vie des parents. Donc, les parents, leurs ex-conjoints, si on le sait, si on ne le sait pas, ça ne fait rien. Dans une constellation, parfois, ça peut se montrer, même si on ne sait pas qui c'est. Les grands-parents, leurs frères et sœurs, leurs ex-conjoints éventuellement. On peut remonter comme ça, on verra en faisant un petit peu le tour du génogramme, jusqu'à trois générations. Après, si vous avez plus d'informations, pourquoi pas. Mais en général, les effets s'estompent aussi. Plus on remonte, et plus les effets s'estompent. Donc on va surtout, on n'a pas toujours la connaissance non plus, donc on va surtout s'intéresser, ça dépend, il faut regarder de près, donc à la problématique actuelle et comment ça résonne quand on regarde aussi, par exemple, c'est la famille d'origine. Quand on ne sait pas où partir, souvent, faire sa constellation de famille d'origine, c'est presque, on va dire, une base, en quelque sorte. Une fois qu'on l'a fait, on n'a pas besoin de la refaire. Et puis, il y a la famille actuelle. Donc, la famille actuelle, ça comprend bah, nous, nos conjoints, ex-conjoints, ou compagnes, compagnons, leurs enfants éventuellement, les enfants d'adoption, si on en a, les parents biologiques de ces enfants d'adoption, et aussi va compter, bien sûr, dans tous les systèmes, ceux qui ont fait du bien au système et dont on a bénéficié, ou ceux qui lui ont fait beaucoup de mal, donc font partie du système. Hein, par exemple, si quelqu'un a tué quelqu'un, bien, si vous faites une constellation et que c'est dans votre famille, quelqu'un a été tué par quelqu'un, le tueur fait partie aussi du système. Hein. Ou si quelqu'un était extrêmement généreux, vous avez bénéficié de ses dons, il fait aussi partie de la famille, en quelque sorte. Bon, enfin, ça, c'est des... On va dire, tout ce qui a donc eu une influence qui peut passer les générations, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, c'est pas tant le caractère de grand-mère ou le comportement de...
Papa.
Je sais pas, moi, de l'aïeul... Que quels sont les événements traumatisants que les personnes ont vécu. Donc il faut lister un peu ces événements. Évidemment, ça peut être, comme je disais, donc, les morts en bas âge, les enfants qui sont morts en bas âge, les avortements, les enfants abandonnés, les suicides, les maladies physiques graves, psychologiques, les exclusions de tous ordres. La violence, donc, sous toutes ses formes aussi. Hein. Je sais pas, là, c'est des exemples, mais vous voyez, donc, des événements qui ont laissé un impact, hein, ou quelqu'un qui est parti à la guerre, qui n'est pas revenu, une grand-mère était fiancé, elle n'a jamais revu. Ça peut marquer des générations. Hein. Ça peut expliquer pourquoi, à un moment donné, elle n'arrive jamais à vivre une vie sentimentale. Oui. Donc, ça va nous alerter intuitivement, on va dire. Hein, tous les problèmes qui semblent vraiment sérieux, graves, etc. Après, s'il y a, dans votre vie, ça ne se manifeste pas d'une façon aussi tragique dans votre vie personnelle, ça peut être quand même le fait de ne pas trouver sa place, pas arriver à avoir des échecs récurrents, répétitifs, c'est-à-dire, les effets peuvent être, là encore, plus ou moins forts et apparents. Donc, nous discutons ensemble, nous voyons, nous acceptons de traiter cela dans la constellation, si nous pensons que ça relève d'un problème systémique. Oui. Que dire d'autre ? Donc, que solutionne la constellation ? Elle solutionne, donc, elle apporte un nouvel ordre, une nouvelle image intérieure, que vous intégrez ensuite cette image intérieure en vous, de sorte à la laisser agir. Donc, à travers ce qui est important aussi, donc, c'est ces phrases libératrices qui permettent de déceler les problèmes et aussi de nous faire parler donc, au niveau des mouvements de l'âme. C'est pourquoi dans la constellation, ça se fait souvent en silence, parce que dès que l'on parle, on risque de repartir dans le mental. Hein, on repart dans les interprétations et blablabla, blablabla. Donc là, dans le silence déjà, vous ressentez plus avec le corps, ça laisse plus de place de ressentir ainsi. Et ensuite, même les mouvements irrépressibles qui vous traversent, vous avez à les suivre sans les juger. Donc ces phrases qui sont dites, qui nous libèrent, qui nous font du bien. Donc souvent, je vous indique même qu'il est bien de les écrire, de les reprendre chez vous, de les dire encore et encore. Il y a des choses qu'on peut continuer, comme des petits rituels, on peut mettre une petite bougie, honorer un ancêtre. C'est à force aussi de faire ce travail très actif intérieurement, de continuer ça, que les transformations s'ancrent. Il y aura une vraie transformation aussi. Parce que le risque, c'est toujours de repartir dans... Tout d'un coup, ça y est, je suis reparti dans le mental. Des fois, on a la belle fille de la constellation, elle ne peut pas avoir d'effet, parce qu'on ne laisse pas l'effet se faire. Hein? C'est comme quand vous allez chez l'ostéopathe. Hein? Puis après, il dit, maintenant, vous reposez. Ben là, c'est pareil. Vous avez fait votre constellation, vous laissez reposer, vous laissez la personne se reposer avec ça, et c'est là-dedans que ça va s'intégrer, hein? Que ça va changer. Ça va... Parce que parfois, les mouvements sont subtils et fragiles. Il ne faut pas y toucher beaucoup. Il faut laisser faire. Et les effets donc peuvent être sur, ça peut être immédiat, ça peut aller de quelques mois, un an, deux ans, les effets d'une constellation. Donc il y a quand même une façon bien sûr de se préparer, qui est formuler une demande claire par rapport à un problème dont on veut un heureux dénouement aujourd'hui, nouvelle impulsion, un nouvel ordre, parce que l'ordre dans lequel nous sommes est défaillant, il faut regarder pourquoi. Le pourquoi, c'est juste laisser une nouvelle configuration apparaît où chacun va se sentir un peu mieux là où il est. Parfois, c'est carrément mieux. Parfois, c'est juste un peu mieux parce qu'on a commencé à dérouler un fil et que peut-être ce n'était pas celui-là complètement non plus. Ou peut-être qu'il est intriqué qu'un autre fil. Ouais. Oula. Donc, parfois, une constellation est faite, mais il faudra en refaire une quelques mois plus tard, revenir encore, parce que c'est possible qu'on ait levé des choses et qu'une, ça ne suffise pas. Mais ça aura de toute façon quand même des effets. À condition, donc, comme on disait, d'avoir compris un certain nombre de choses. Alors quand vous vous levez et vous venez, ceux qui ont déjà pratiqué les constellations le savent, peut-être qu'ils sentent un peu une différence à force de devenir représentant. Est-ce qu'il y en a qui le sentent un peu ça, à force d'être représentant ou d'avoir été choisi ou... C'est-à-dire qu'on est très vite ouvert, hein, on est très vite aussi présent à ce qui se passe, hein, Elisabeth. Parce qu'on est des êtres de résonance, hein, il suffit de nous laisser faire et puis pas de problème. Qu'est-ce qu'on ressent, hein, on est comme ça. Voilà, deux personnes qui se rencontrent. Alors qu'est-ce qui se passe? Elles sont à un certain endroit et elles prennent contact avec le regard. Et il faut laisser agir, il faut être patient et sobre dans les constellations. patient, sobre, silencieux, pour laisser les vrais mouvements émerger. Parce que le risque, c'est tout de suite faire des mouvements. Non,
ça, c'est pas la peine.
Donc, pas de gestes qui induisent, on va dire, des comportements habituels. Par contre, il va y avoir des mouvements. Par exemple, elle s'est écartée. Donc, le ressenti est différent. Donc, à un moment, je vais leur demander, qu'est-ce que tu ressens ? Même si on ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu te sens ?
Je me sens dominée.
Tu te sens dominée. Comment tu te sens ?
Moi, j'ai senti quelque chose de vertigineux, enfin, quelque chose qui...
Tu sens qu'il y a quelque chose de vertigineux. Ouais. Donc, on va voir, par exemple, des petits mouvements de recul, des petits balancements éventuellement, ou le désir, donc c'est pour ça qu'on va demander à un moment donné, qu'est-ce que tu ressens ? Peut-être, j'ai envie de m'écarter, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de ça, etc. Et là, on verra aussi s'il faut rajouter d'autres personnes, s'il faut laisser les personnes suivre leur mouvement, et ce qui se passe à partir de là. Ensuite, on peut tout à fait faire rentrer quelqu'un. Tiens, viens là. Viens. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Est-ce que ça change quelque chose ? Oui, ça change complètement quelque chose.
Je me sens moins dominée par...
Tu te sens moins dominée par... Alors, le constateur répète ce qui est dit pour que tout le monde entende et que vous puissiez participer vraiment aussi à la constellation. Ça en fait partie. Donc, se sent moins dominé. Pour toi, c'est comment ? Comment tu te sens ?
Bien.
Bien ?
Rien de particulier.
Rien de particulier.
C'est plus équilibré.
C'est plus équilibré ? Et quand tu regardes là, est-ce que tu ressens quelque chose ?
Je me sens moins à l'aise.
Tu te sens moins à l'aise.
Ouais.
Et pour toi, c'est comment ?
Non, moi, je me sens joyeuse. Quand il est rentré, c'était rigolo.
Ça t'a rendu joyeuse quand il est rentré ?
Rigolo.
Rigolo.
Oui, c'est vrai. Rigolo.
Mettez-vous à une place où vous vous sentez mieux, là. Spontanément. C'est comment,
François ? Voilà, faut qu'il y ait ça, ouais.
C'est les hommes et les femmes. Comment tu te sens ?
C'est plus équilibré.
C'est plus équilibré ?
Ouais.
Et pour toi, c'est plus équilibré ?
C'est plus équilibré, je me sens mieux à sa place.
Oui, je me sens mieux à sa place. Et pour toi ?
Et je le vois vraiment en lumière, là. C'est très lumineux. Je vois bien.
Alors, de ce qui est dit là, même si on ne sait pas ce qui se joue, il se trouve que, qu'est-ce qui est plus équilibré, là ? C'est le fait qu'en se mettant là, il voit mieux. Et en général, c'est une règle assez... C'est-à-dire que spontanément, quand on demande aux personnes, ils sont dans une position, ils voient l'ensemble. C'est-à-dire que tout à l'heure, ça semblait équilibré, mais ils ne voyaient pas là, ils ne regardaient pas là. Oui. Là, c'est plus équilibré parce qu'ils voient l'ensemble. Oui. Par exemple, c'est une des dynamiques. C'est-à-dire qu'on va toujours sentir mieux dans un endroit où, de toute façon, on voit quand même mieux. Donc, voir, ressentir la place, après, il y a la question ici, où cette représentante. Donc, c'est par toi de cette spontanéité de l'instant. Donc, a pris la place ici. Cette information pour vous, dans cette mini-constellation. Donc, respirez bien. Voilà. Soufflez. Merci à vous. Et donc, c'est ce qu'on fait tout le temps, ça. Hein. On est tout le temps comme ça. On est tout le temps, on a des petites antennes, tout le temps en résonance, il se passe plein de choses, ça. Sauf qu'on n'a pas forcément... l'opportunité de prendre le temps de regarder tout ça. Mais c'est tout le temps ce qui se passe. Donc, il n'y a rien de neuf, en fait. Hein, vous regardez un film, vous allez voir, vous allez pleurer, tout ça. Vous êtes touché, vous les allez, vous êtes touché. Tout le temps, vous êtes touché. Vous avez marre. Vous dites, maintenant, je mets une forteresse. On est marre d'être touché. Et là, la grande opportunité, c'est effectivement, vous allez laisser, vous laisser traverser par ce champ que l'on crée. C'est un champ. D'accord ? Ce champ est créé, pas par moi, il est créé par le fait que je fais un grand laisser-passer, en étant vigilant quand même, justement, à ne pas repartir dans mes propres pensées. Donc, à être à l'écoute de ce qui se passe là, dans l'instant présent. Il faut être très présent, mais ça se fait, on va dire, une fois que vous avez compris, assez facilement. Donc, être vigilant quand même, hein, ce que ce ne soit pas le mental qui... si vous sentez ça, vous lâchez, vous revenez à la respiration, vous sentez la plante de vos pieds, l'intérieur de vos mains, le sommet de votre tête, le bout de votre nez, et vous êtes là totalement présent au service de la personne pour le dénouement de son problème. Mais bien que vous souhaitiez le dénouement de ce problème, vous ne faites pas des happy end. Hein? Quand c'est un genre, environ, ça prend une demi-heure, ça peut prendre plus, ça dépend, ou moins. Mais si c'est trop rapide, on est sûr que... on va le sentir. Hein? C'est-à-dire, on a réglé le problème. Ouais, tout va bien. Tout va bien, bah alors, c'est pas la peine. Si tout va bien. Non, tout va pas bien. Hein? Tout va bien, mais ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Tout va bien, ça va pas. D'accord, hein? Donc là aussi, forcément, on est des fois... Alors, il y a les extrêmes. Tout est problème, ou il n'y a aucun problème. Bon. Donc, si on est là, forcément, c'est qu'on est là pour résoudre des choses. Essayer de voir... comment donc la solution peut se proposer à travers les constellations et quel genre de solution la constellation propose. Est-ce que c'est relativement clair pour vous? Donc, y a pas, on est sobre dans l'attitude, on est en silence, avant que la personne vous demande ce que vous ressentez. Vous êtes à l'écoute des mouvements intérieurs en vous, hein, qui sont irrépressibles. Sans chercher, hein, je veux faire plaisir à machin, je ne vais pas dire ça quand même. Je ne vais pas oser. Vous dites ce qui vous traverse, ce qui appartient à ce champ. Ce sont des informations de vérité pour la personne. Donc, ça, c'est un moment de vérité, en fait. C'est ce qui peut être douloureux aussi. Ouais. C'est un moment où on voit les choses. Et en même temps, c'est ce qu'on a choisi aussi de faire. Et en même temps, il y aura beaucoup de bienfaits à dire des phrases libératrices et à sentir une nouvelle énergie. En fait, ce que vous sentirez, c'est surtout physiquement, vous sentirez, parfois vous allez sentir, il y a des circulations dans votre cerveau, ça, vous sentez, vous avez des sensations, parce que quand on se libère de certaines choses, le corps ressent un soulagement. Et le ressenti du soulagement, c'est comme quand vous libérez une tension, il y a de la chaleur qui circule, vous voyez, ça ce sont des effets de la constellation. Donc ramener de la vie, ramener des élans, des nouvelles solutions possibles. Et pour ça, donc, on laisse agir ce qui va se passer. Alors, la difficulté, parfois, c'est qu'on est trop dans la tête, comme on disait, pas assez dans le corps. Donc, on fait des petites expériences, des petits exercices pour affiner ça. Donc, si des choses sont dites aussi, ne le prenez pas mal, c'est pour respecter donc, les consignes qui sont liés à la constellation. Si je vous dis stop, arrête de parler, c'est que c'est pas la peine de dire hein, ce que tu vas dire. Parce que sinon, hein, ça va nous faire repartir dans... C'est question d'énergie, on le sent. Il va y avoir une énergie présente dans une constellation. À un moment donné, on va arrêter. Quand est-ce qu'on arrête une constellation? Parfois, on arrête parce qu'il n'y a plus d'énergie. Ouais. Donc, on arrête. Ou on est à une haute énergie... et c'est profitable, alors on arrête aussi. Où est-ce qu'on va aller? On ne le sait pas à l'avance. Ça va dépendre de ce qui va se passer. Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai exposé? Ou est-ce que... c'est relativement clair?
Oui. Bon. T'as mentionné très brièvement la loyauté. Est-ce qu'on peut la considérer comme une compensation?
Quoi, non?
La loyauté, La loyauté envers...
Invisible.
Oui, la loyauté invisible.
Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as dit comme compensation.
Est-ce qu'on peut la mettre avec compensation, intrication ?
L'intrication ?
La loyauté, non.
Ah, la loyauté invisible ?
Oui.
Bah, oui, c'est l'intrication en une forme de loyauté invisible.
Oui.
Loyauté invisible, oui, loyauté à quoi ? Au clan, à l'appartenance, à la famille d'appartenance. Oui. Et cette loyauté invisible se traduit donc, c'est ça qu'on regarde, c'est une façon de dire, par des intrications, le fait qu'on prend le destin de quelqu'un d'autre, qu'on revit le destin de quelqu'un d'autre, sans le savoir. Oui. L'amour inconditionnel. C'est ça qu'il faut aussi que ce travail est vraiment un travail qui développe des qualités énormes. D'abord, ces qualités, elles sont là parce que vous allez tous être dans cette présence sans jugement les uns des autres et sans jugement de vous-même. Et dans cet amour inconditionnel, c'est-à-dire ce service. Hein, l'amour inconditionnel, c'est forcément aller se frotter toujours et puis être libidineux, c'est pas ça. L'amour inconditionnel, c'est être présent au service de l'autre, avec dignité et respect. Parce que c'est ça que chacun demande. Il demande, la place, c'est une question de respect. C'est pour ça qu'on honore les ancêtres. Pourquoi on les honore ? Parce que prendre la place de quelqu'un, c'est lui manquer de respect. Vous voyez ? Et ça, souvent, on ne l'a pas, ou on l'a moins aujourd'hui. Ça. Vous voyez ? C'est le respect qui fait qu'on respecte aussi les autres, ceux qui sont là avant. Si vous voulez apprendre quelque chose de quelqu'un, vous devez être un petit par rapport à lui qui sait, qui est grand dans cette connaissance. Ça ne veut pas dire que c'est absolu. Hein ? C'est pour ça qu'à l'école, on n'apprend pas. On apprend moins si les parents commencent à dire « Les enseignants, ça vaut rien, c'est nul, etc. » Vous ne pouvez pas dire ça. Si vous dites ça, alors pourquoi on apprendrait de quelqu'un si on entend dire autour de lui que ça ne sert à rien ce qu'il nous enseigne ? Comment on peut dire ça ? Comprenez ? On a tous une responsabilité aussi dans justement le respect des places. Aujourd'hui, parfois, on est trop cynique. On a un cynisme qui fait qu'on détruit tout. Comment dire ? Il faut savoir aussi redonner des belles places à des choses qui ont de la valeur. Hein ? Parce que sinon, c'est comme ça qu'on perd aussi des valeurs. Donc, redonner la place, prendre sa place. Qui ne veut pas de respect ? Vous ne voulez pas être respecté pour ce que vous êtes ? Si, vous voulez. Donc, faites-le aussi. Vous respectez. Donc, en étant ainsi respectueux, on devient respectable. Et en se lamentant, on devient lamentable. Il faut faire un choix. Voilà, c'est très important. Parce que quand on ne se sent pas respecté, on peut là aussi devenir très violent. Et c'est des histoires individuelles et collectives. On se sent méprisé, se sent exclu. Et donc, on va exclure aussi. Et la plus grande exclusion aussi, bien sûr, c'est tuer, c'est déporter, exiler, etc. Tout ça sont des thématiques aussi de l'exclusion. Sachant, comme on a dit hier, qu'on est tous des exilés, hein, fondamentalement. Oui. Nous sommes arrivés dans cette famille. Qu'est-ce qu'on est venu faire là, sur cette terre ? On cherche encore une réponse. Et donc, ça veut dire qu'on a à se faire naître à nouveau et à comprendre ce qu'on a à résoudre aussi, peut-être, dans cette vie, pour se libérer, etc. Vivre quelque chose de plus grand que nous, que plus grand que ce à quoi on s'est identifié. Donc, si on travaille cette histoire de famille, c'est aussi pour découvrir au-delà ce que l'on est. Pas seulement rester macéré toute sa vie dans sa famille, dans ses problèmes familiaux, on va dire, plutôt. Hein, vous comprenez ça ? Ça, c'est une dimension vraiment... Hein, sinon, c'est toute la vie, ça peut nous prendre la tête. Et encore, je dis la tête. Tout. Hein ? On est bien plus vaste que cela. Un jour, il faut faire un saut aussi là-dedans. Les constellations le permettent, la méditation le permet, car dans la méditation aussi, nous laissons aller les histoires. Voyez la naissance de ce matin, nous avons médité, dans l'abîme de la nuit jusqu'à la naissance du jour. Et hier, on avait fait tout ça. La la naissance, on peut l'expliquer, on va dire, biologiquement. Qu'est-ce que c'est que naître? Oui. Quelqu'un dit, oh, ben moi, la naissance, oui, je t'ai expliqué comment ça se passe, tout ça. Oui. Mais c'est aussi la naissance, quand un enfant paraît dans une famille, c'est un événement. Oui. La naissance, c'est aussi la naissance de liens, c'est la naissance d'émotions, c'est la naissance d'une nouvelle relation et d'un nouvel équilibre. Quand un enfant paraît dans un couple ou dans une famille, c'est un nouvel équilibre, c'est un changement. Et même s'il est heureux ou malheureux, oui, c'est, on va dire, quelque chose qui amène un bouleversement qu'il faudra intégrer d'une façon ou d'une autre. Et puis, la naissance, c'est aussi ce qui donne sens. Qu'en est le sens? Oui, car nous sommes des êtres de sens qui souhaitons force et cohérence à notre vie. On va mal quand notre vie n'a plus de cohérence, n'a plus de sens, n'a plus de force. Et cette naissance, elle est liée aussi, on va dire, dans la vie quotidienne, à justement cette notion de cohérence et de force qui peut nous habiter. Donc chaque matin, le monde naît, nous naissons avec lui, dans sa lumière, dans ses éléments, dans sa nature. Donc on est aussi ça, on n'est pas que le petit être malheureux qui a que des problèmes dans sa vie, qui a mal à son orteil, qui a mal ci, qui a mal ça, qui a... On n'est pas réduit à ça. Hein. Si on... Déjà, le fait de se réduire à ça, c'est une souffrance. C'était tout petit, petit être. Et après, on vient des caricatures quand on vieillit. Caricature, on a complètement exclu. Alors on est là, on dit, ah, si j'avais fait ça, si j'avais été ci, si j'avais été ça, ou là on dit toujours, on radote toujours sur les mêmes choses. Alors que, vieillissant, là, intérieurement, nous nous ouvrons à quelque chose de grand, puisque nous allons rejoindre quelque chose de grand à la fin. Pour le simple fait que on ne sera plus là. Donc ça sera forcément plus gros que nous. Oui. Et cette dimension est déjà présente, en fait. Donc si on entre en amitié avec cette dimension aussi, qu'on s'y retrempe un peu régulièrement, alors tout ça, ça va aussi donner force, cohérence à quelque chose de plus grand, de plus vaste, et où l'ensemble pourra être vécu à nouveau. Vous aurez plus de distance, même quand vous irez dans vos familles. Ouais, ça ne sera peut-être pas résolu, vous n'aurez pas changé le caractère de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre soeur, etc. Mais vous, vous serez différent. Et si vous êtes différent, le monde est différent. Hein? Ça aussi. D'ailleurs, un événement n'est pas vu de la même façon. Différentes personnes ne vont pas vivre l'événement de la même façon. Hein? Pour l'un, ce sera vraiment une catastrophe. Et pour l'autre, ce sera quelque chose qui l'a aidé au contraire à rebondir, à approfondir sa vie, à réveiller des talents, on ne sait pas. Donc l'amour inconditionnel qui nous habite tous peut être un amour qui fait souffrir ou un amour qui guérit. Et là, tout ce que l'on va faire aussi, c'est un travail d'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'être présent les uns pour les autres, de dire des phrases libératrices, et donc de sortir aussi de l'amour un peu sentimental, au sens, c'est pas que... En tout cas, d'une vision très naïve, et d'être plus dans un amour aussi vrai. L'amour qui guérit, c'est un amour qui est capable de faire face à la douleur aussi, de faire face à ses mensonges, faire face à ses illusions. C'est ça l'amour vrai. C'est pas un amour qui dit ouais, qui conforte la névrose. Non, non. Et donc celui-ci, d'amour inconditionnel, il demande de changer de place en nous. Parce que si on reste dans le mental ou dans la réduction à laquelle on s'identifie habituellement, celui-là, on n'arrivera pas à le faire rentrer dans le petit carré. Et c'est là où on peut vraiment se transformer. C'est pourquoi l'amour est transformateur. L'amour inconditionnel nous métamorphose véritablement, car il ouvre un espace qui jusqu'ici n'était pas ouvert. C'est comme le petit carré du mouchoir. Hein? C'est ça. Voilà, on est dans son petit carré. Un petit carré comme ça. Voilà. On tourne en rond dans son carré.
Vous dire, oh là là, tu tournes en rond, toi. Toi, je vois, toi, t'as un carré, tu tournes en rond. Puis un jour, vous avez un peu tourné comme ça. Alors, vous êtes là. Oh, dites donc, vous êtes arrêté, vous avez vu que vous avez un carré sous les pieds. C'est un point aveugle, vous n'aviez pas vu avant. Puis là, vous le regardez, vous dites, ben tiens, ah, le tien, c'est écrit quoi dessus? Le tien, c'est écrit. Dis donc, t'embraveras les ronds de chapeau avant de t'apercevoir que tu peux t'en sortir. Parce qu'il y a des faits qui sont arrivés, là, et une sorcière, elle n'était pas invitée, elle n'a pas aimé du tout. Hein, parce que les gens n'aiment pas être exclus. Ils n'aiment pas qu'on les invite pas. Et du coup, voilà, tu auras. Mais heureusement, un jour, tu pourras sortir de ce clan machiavélique. Tu feras des rencontres. Des portes s'ouvriront, c'est quand même pas mal, non? Surtout un ancêtre avant toi a ouvert déjà des portes. Parfois, ça, bien sûr, il y a aussi les bonnes forces. Et alors là, soudain, vous réalisez que ben finalement, ce petit carré-là, il est dans quelque chose de tellement grand. Et tous les carrés, tout le monde a ça sous les pieds. Alors on peut être limité par ça. On soudain regarde que tous ces carrés sont possibles parce qu'il y a quelque chose de plus vaste que ces carrés-là. On peut même risquer un pied comme ça. On peut sortir du carré. Et le vivre en volume, en fait. On ne va pas acheter le carré c'est notre vie. Hein? Telle qu'elle est, c'est comme ça. C'est pas pourquoi, c'est comme ça. Nous le regardons différemment. Nous pouvons avoir un autre point de vue. Être là, c'est être complètement fermé et réduit à ça. Être ici, ça pourrait être aussi dangereux. C'est-à-dire que là, j'ai pété un câble. Là, je me raconte d'autres histoires. Je suis dans. Là, je suis dans le trip. Je ne suis plus dans mes tripes. Donc, la bonne position, c'est celle-ci. Un pied en carré, vécu en volume. Ouais. Et je vois que chacun a la possibilité de sortir de son carré et de risquer l'inconnu. Et en risquant l'inconnu, je vois mon carré différemment. Et j'ai même pas peur de le regarder. J'ai même pas peur de le faire comme ça parce que je sais que ce n'est pas un carré, en fait. Ouais, et puis, ça peut être un carré, mais ça peut être complètement autre chose. Qui ne ressemble à rien, c'est complètement banal et unique. Je mets un mouchoir de poche que j'ai dans la poche et regardez le beau diamant que c'est. Non? Et ça, c'est moi. Et chacun en est ça. C'est-à-dire, c'est la complexité, c'est la multidimensionnalité que nous sommes. Plutôt que de nous réduire à un niveau, acceptons cette complexité. C'est la créativité, ça. On est forcément créatif parce qu'on est complexe. Complexe au sens riche, avec de multiples niveaux qui s'entrecroisent et des résonances qui ne cessent de résonner. Alors, il y en a qui en font des œuvres incroyables, puis d'autres qui pètent un câble et qui viennent fous. Et entre les deux, il y a toutes les variantes, quand même, possibles, c'est-à-dire. Et ça, c'est quand même, vous voyez, vous n'avez pas fini d'explorer ça, hein, hein? Quand vous regardez, oh là là là, oh, j'avais pas vu, territoire inconnu, j'étais jamais allé là, en moi-même. Hein, se connaître, c'est connaître l'inconnu de soi, pas répéter toujours des versions de soi-même qui nous laissent dans des zones de confort. Les zones de confort, c'est la bonne conscience, aussi parfois. Hein. Je suis comme ça, voilà. Et tout d'un coup, je me vois autrement. De toute façon, la vie, elle nous oblige à nous voir autrement aussi. Hein. Elle nous envoie des petits coups de pied comme ça, régulièrement, pour dire, bien sûr que tu changes. Bien sûr que tu peux aussi lâcher un certain nombre de fardeaux, ou de croyances, ou de certitudes. Donc voilà, vous savez que, une fois que vous avez vu tout ça, vous ne regardez plus les choses de la même façon. Hein ?